VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, il est midi à Kinshasa. Bonjour à tous. Trois étudiants et un policier ont été tués dimanche dans une manifestation d'étudiants à l'université de Lubumbashi, Nilo, dans le sud-est de la République démocratique du Congo, selon un nouveau bilan établi aujourd'hui par la présidence congolaise, alors qu'un ministre et un officier de police sont visés par des enquêtes. L'officier de police en question, Yawe Bertrand, qui a ordonné de tirer sans sommation sur des étudiants dimanche, est déféré devant la justice militaire afin de subir la rigueur de la loi, lit-on dans le communiqué signé par M. Vital Kamerhe, le directeur de cabinet du chef de l'État congolais. La présidence note par ailleurs que la décision ministérielle portant réajustement des frais académiques est suspendue. RDC toujours, les évêques catholiques de la région du Kasaï ont salué l'élection de Félix Tshisekedi comme président de la RDC. Il semble se démarquer ainsi de la position de la conférence épiscopale nationale du Congo, la CENCO, Idrissa Seydou Dia.
Nous bénissons Dieu pour le nouveau président de notre pays, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, ont écrit dans un communiqué. 6 des 8 évêques de la région du Kasaï, fief du nouveau président de la RDC. Nous remercions Dieu aussi pour la première alternance pacifique et démocratique au sommet de l'État par la voie des urnes, obtenue le 30 décembre 2018, marquant le début des temps nouveaux. En RDC, ajoute-t-il, dans ce Congo nouveau, l'Église ne sera jamais ni distraite ni partisane, ont insisté ses évêques. Cette première alternance pacifique et démocratique est une opportunité unique pour que chacun de nous entre dans une nouvelle culture politique, ont-ils ajouté.
Merci Idrissa. Au Cameroun, au moins 6 personnes ont été blessées et une centaine d'autres interpellées, selon le gouvernement, lors des marches illégales de samedi dans certaines villes du pays. Ces manifestations ont été organisées par le parti d'opposition MRC, dirigé par Maurice Kamto, arrivé officiellement second lors du dernier scrutin présidentiel qui a initié les dites marches pour dénoncer les résultats de la présidentielle d'octobre 2018. Reportage à Yaoundé de notre correspondant Emmanuel Jelinta.
Des tirs de balles des policiers samedi matin dans les rues de Douala. Face à face, au lieu dit Lokpom, les forces de l'ordre et une vingtaine de manifestants conduits par Célestin Diab, un cadre du MRC. Subitement, Célestin Diamen est blessé. Il a reçu une balle à la cuisse. Le cadre du MRC est conduit à l'hôpital général de Douala. Alerté, les militants du MRC se ruent vers l'entrée de la formation hospitalière. La police arrive sur les lieux pour une intervention. Serge Aimé, un témoin.
C'était la lancée des gaz lacrymogènes. Beaucoup ont décidé de prendre la fuite.
Ce sont des balles.
Oui, et ce sont des preuves. J'en ai besoin pour plus tard.
Au cours de cette intervention policière, l'avocate Michel Ndoki, membre du MRC, est blessé à la cuisse droite. Les images de Maître Ndoki recevant les soins médicaux font le tour des réseaux sociaux. L'avocate témoigne avoir reçu 2 balles dans la cuisse droite.
On m'a tiré dessus, les gens fuyaient. Si on avait été des milliers, ils n'auraient pas eu besoin de fuir. Vous pouvez voir ce qui arrive à toute une Michel Ndoki soi-disant. Imaginez ceux qui n'ont pas de nom.
Dans l'après-midi, Maurice Kamto, président du MRC, arrive à Douala. Sans heurts, suivi par une foule de sympathisants, il prend la tête d'une marche en direction de l'hôpital général de Douala, où il va rencontrer ses militants blessés. Hormis Douala ce samedi, des manifestants se sont aussi regroupés à Yaoundé, au centre-ville, à Bafoussam et Mbouda, dans la partie occidentale du Cameroun. Tard dans la nuit, René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication, va dresser le bilan de cette journée de marche à l'appel du MRC.
Aucun coup de feu à balles réelles n'a été tiré. S'agissant de Douala, 6 blessés ont été enregistrés, parmi lesquels 2 activistes bien connus du public. À Yaoundé, Bafoussam et Mbouda, plusieurs individus ont été interpellés et placés en garde à vue.
Le gouvernement semble exacerbé par les appels à manifester du président du MRC et promet de faire appliquer la loi contre ce parti politique. Paul Atangandi, ministre de l'administration territoriale.
Si le responsable d'un parti politique décide de défier l'autorité de l'État, le ministre de l'administration territoriale est en droit de prendre certaines mesures conservatoires. Et si jamais les indices concordants de perturbation de l'ordre public sont établis contre ce promoteur, son parti politique peut définitivement être interdit sur l'étendue du territoire national. C'est un message assez clair.
Selon le chronogramme du MRC, ce parti entend organiser à Yaoundé une marche spéciale le 9 février prochain. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Le président comorien Azali Assoumani, candidat à sa réélection le 24 mars après une réforme constitutionnelle controversée, assure qu'il n'y a pas d'arrestation politique dans son pays. Les interpellations et condamnations récentes de plusieurs membres de l'opposition étant selon lui, je cite, des coïncidences malheureuses. Ces derniers mois, plusieurs figures de l'opposition comorienne ont été condamnées par la justice. L'ex-président Ahmed Abdallah Sambi est assigné à résidence pour escroquerie et détournement de fonds publics et le secrétaire général de son parti a écopé de 7 ans de prison pour avoir blessé un militaire. Le président français Emmanuel Macron rencontre aujourd'hui son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi en vue de resserrer les liens économiques, culturels et stratégiques entre les deux pays tout en parlant plus ouvertement des droits de l'homme. Au deuxième jour de sa visite en Égypte, lundi, M. Macron sera accueilli au Caire, au palais présidentiel par M. Sissi pour un entretien en tête-à-tête et la signature d'une trentaine d'accords et de contrats commerciaux pour quelques centaines de millions d'euros selon la présidence française.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Les députés britanniques votent mardi, c'est demain, plusieurs amendements pour exprimer leur vue sur le Brexit, voire essayer de reprendre la main vis-à-vis de l'exécutif, tentant de sortir de l'impasse après avoir rejeté le traité de retrait conclu par le gouvernement avec Bruxelles. Après ce rejet, Theresa May, la première ministre, n'a pas produit de plan alternatif, contrairement à ce que réclamaient les parlementaires britanniques. Les députés ont donc rédigé des amendements pour exprimer leurs attentes et tenter d'influencer la suite du processus. Ces amendements débattus et votés demain visent principalement à réclamer une renégociation du traité de retrait, à empêcher un Brexit sans accord, à retarder le divorce ou encore à obtenir l'organisation d'un second référendum. Ici aux États-Unis, le gouvernement fédéral a rouvert ses portes dans son entièreté après plus d'un mois de paralysie de certaines administrations. Donald Trump et les parlementaires ont trouvé un accord pour 3 semaines. Le budget fédéral est financé jusqu'au 15 février. Le président américain laisse toutefois déjà planer la menace d'un autre shutdown. Anne Albertson nous en dit plus.
Le président Donald Trump a estimé à moins de 50% les chances des négociateurs des deux parties au Congrès de parvenir à un accord sur le financement du mur qu'il veut construire à la frontière avec le Mexique, un accord qu'il trouverait acceptable. Dans une interview avec le Wall Street Journal, M. Trump a dit douter pouvoir accepter moins que les 5,7 milliards de dollars qu'il réclame. Il doute aussi pouvoir accepter, dans le cadre d'un tel accord, la citoyenneté pour les Dreamers, c'est-à-dire ces jeunes arrivés très jeunes dans le pays en compagnie de leurs parents en situation irrégulière. M. Trump a annoncé vendredi la fin du shutdown en donnant 3 semaines aux négociateurs pour arriver à une solution. Il n'exclut pas une autre fermeture du gouvernement fédéral ni la déclaration d'une urgence nationale pour financer le mur en cas d'échec des négociations.
Les États-Unis ont exposé en détail aux autorités afghanes les avancées obtenues au cours d'une semaine de négociations avec les talibans au Qatar, leur assurant que l'établissement d'un dialogue entre Afghans demeurait une priorité, a indiqué aujourd'hui la présidence afghane. L'émissaire américain Zalmay Khalilzad, qui avait fait état samedi soir de progrès importants à l'issue de ses 6 jours de pourparlers avec les insurgés, est arrivé à Kaboul où il a rencontré dimanche soir le président Ashraf Ghani. Le président autoproclamé du Venezuela, Juan Guaido, a appelé à 2 nouvelles manifestations mercredi et samedi. Cela pour faire basculer l'armée, principal soutien du président élu Nicolas Maduro, et d'accompagner l'ultimatum européen en faveur d'élections libres. 6 pays européens, Espagne, France, Allemagne, Royaume-Uni, Portugal, Pays-Bas, ont donné samedi à Nicolas Maduro 8 jours pour convoquer des élections, faute de quoi ils reconnaîtront Juan Guaido comme président. L'ultimatum expirera donc dimanche prochain. Nicolas Maduro, pour sa part, s'est montré inflexible jusqu'à présent. Personne ne peut nous donner d'ultimatum, a-t-il déclaré à la chaîne CNN Turc. Jean-Roger Billon à ce micro. Prochaines infos dans 50 minutes. Vous retrouverez Henri Francisque. Bon après-midi à tous et à bientôt.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.